au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Gaillardon.
Au fil des pages, David Gaillardon. Alors avec nous aujourd'hui Geneviève Arroche-Bouzinac, qui vient de publier chez Honoré Champion les souvenirs d'Elisabeth Vigier-Lebrun, qui en a établi le texte, présenté ses souvenirs et réalisé un appareil critique considérable. Geneviève Arroche-Bouzinac, vous êtes universitaire, vous enseignez je crois à l'Université d'Orléans, vous êtes ce qu'on appelle une 18e-iste et vous avez publié sur Voltaire, notamment à travers ses lettres de jeunesse. Vous êtes une véritable spécialiste des correspondances ou de ce qu'on appelle l'épistolaire, un genre littéraire bien particulier. Et je crois savoir que vous animez depuis plusieurs années chez Honoré Champion une revue qui porte ce nom, la revue épistolaire. Aujourd'hui, nous allons donc parler des souvenirs de ce peintre fameux, la première femme à avoir été élue donc sous l'Ancien Régime. Il s'agit encore de l'Académie royale de peinture, l'Académie royale des beaux-arts plus exactement. Elisabeth Vigier-Lebrun, donc ces souvenirs qui ont été publiés de son vivant. Et grâce à vous, aujourd'hui, on en a un texte rectifié, réétabli, je dirais. Quelle est l'histoire de ces lettres, en fait, qui sont à mi-chemin entre l'autobiographie et les mémoires ?
Eh bien, tout d'abord, très probablement, Elisabeth Vigier-Lebrun avait eu le projet de raconter ses mémoires à la demande de son amie, la princesse Kourakina, qu'elle avait rencontrée à Pétersbourg. Et donc, il existe vers 1825 un premier état du texte, et notamment une lettre qui concernait une lettre sur les bruits. Et un document tout à fait étonnant qui est publié à la suite, qui est publié par les soins d'un descendant de la princesse Kourakine. Et vers 1835, elle publie le premier volume donc, de ses mémoires qui est dédié à cette amie, une de ses meilleures amies, à laquelle elle restera toujours fidèle, donc, qui est cette princesse Kourakina. À la suite du décès de la princesse Kourakine, qui est morte lors de la terrible épidémie de choléra, elle va publier les deux autres volumes en 1837. Mais alors, ce texte a été précédé de plusieurs documents, notamment des documents de type biographique, des notices biographiques qui ont été rédigées par son neveu par alliance, Justin Tripier-Lefranc, et puis également un texte apologétique qui a été rédigé, qui est finalement le premier essai biographique qui a été rédigé par son propre époux, Jean-Baptiste Lebrun, le célèbre marchand d'art, au moment où il s'agit de la défendre, hein, de tenter de la faire rayer de la liste des émigrés. Ce qui explique que la dimension apologétique, finalement défensive, hein, qu'on retrouve à plusieurs états, dans plusieurs endroits du texte, est inscrite finalement dès la conception, dès l'origine. Hein, il s'agit non seulement de raconter sa vie, de raconter ses souvenirs et de retrouver un bonheur passé, comme elle l'exprime en citant Rousseau, elle cite un passage des Rêveries.
Et ça revient très souvent dans les souvenirs. Hein.
Et donc il s'agit non seulement de retrouver le bonheur passé, mais il s'agit aussi de redonner un certain éclat à une réputation que les libelles révolutionnaires avaient tenté de ternir.
Alors oui, on le fait à rebours, mais il faut préciser que ses souvenirs paraissent finalement dans les dernières années de sa vie. Elle était née en 1755, elle meurt en 1842, au soir d'une vie extrêmement riche, une vie de femme célèbre, puisque si aujourd'hui le grand public connaît si bien la portraitiste favorite de Marie-Antoinette, elle a eu, on va le voir, une vie très, très riche en voyages, et que sous ses voyages, on s'était jalonné de portraits. Elle est la portraitiste à la mode, et bien au-delà de la Révolution française, qui l'oblige à partir justement dans toute l'Europe. Alors, vous le disiez, les destinataires de ces souvenirs sont nombreux. Il y a la princesse Kourakine, il y a la comtesse Potocka ensuite, et puis il y a aussi, je dirais, des contemporains et des gens de son cercle. Je pense à Hubert Robert, le peintre, et puis Brognard, l'architecte.
Oui, bien sûr. Brugnard, Hubert Robert, qui sont les amis de la première heure et à qui elle va continuer à écrire très régulièrement lorsqu'elle est à Rome. Et ce qui s'est très probablement passé, c'est qu'elle a redemandé les lettres adressées à son frère Étienne, à Brugnard et Hubert Robert, afin de les réutiliser dans la rédaction définitive des souvenirs. Elle s'en est servie comme de matériaux. Ça, on en a la preuve.
Oui. Ce qui fait que lorsqu'elle est revenue à Paris et que les Bourbons sont sur le trône à nouveau, elle est une femme âgée qui publie des mémoires, mais elle est une femme connue. Elle est une femme de réputation considérable encore. Elle n'est pas oubliée.
Non, elle n'est pas oubliée. Elle a reconstitué son cercle. Elle fréquente, par exemple, le baron Gérard. Elle a connu Madame de Récamier, Madame de Staël, même si elle ne l'apprécie pas tant que ça. Et donc, autour d'elle gravitent un certain nombre de lettrés qui sont évidemment royalistes.
Alors, elle-même, elle décrit un peu tous ces gens connus. Vous parliez de Madame de Staël, de Madame de Récamier. Elle ne se décrit pas comme... Ce n'est pas une intellectuelle, le mot est trop contemporain pour elle. Mais enfin, elle n'est pas un bas bleu. Elle n'est pas une femme de salon. Elle est une femme visiblement charmante, qui sait écouter, qui chante. Elle chante Grétry lorsque la reine pose pour elle. Elle a un filet de voix. Elle sait écouter. Elle doit être charmante, mais ce n'est pas une femme d'opinion.
Alors non, ça n'est pas une, ce qu'on pourrait appeler une femme cultivée, même si on la compare à une de ses grandes contemporaines, Angelica Kauffmann, hein, qui est vraiment une des grandes portraitistes, d'ailleurs, qui lui sert de modèle. Hein. Angelica Kauffmann est un petit peu plus âgée qu'elle. Et lorsqu'elle rencontre Angelica Kauffmann à Rome, elle rapporte que sa conversation ne l'a pas électrisée, dit-elle. Parce que, bon, évidemment, Angelica Kauffmann, c'est quelqu'un qui sait le latin, qui connaît des langues. Bon, Madame Lebrun a très peu lu, mais le savoir qu'elle possède, c'est un savoir qu'elle a obtenu dans des conversations, par les lectures que son frère lui faisait. Étienne, qui est, on va peut-être en parler, qui est poète, l'introduit dans le cercle de Delille, hein, de Lebrun Pindare. Donc elle a une connaissance de la poésie de son temps, c'est clair. Elle a une connaissance de l'histoire sainte. Elle ne lit pas de romans, mais bon, elle a, et surtout, elle a une très grande culture picturale. Bon, ça, c'est quelque chose d'indéniable. Qu'elle a acquise sous l'influence de son mari, le marchand d'art Jean-Baptiste Lebrun, mais aussi...
Petit-neveu du grand Lebrun.
Oui, petit-neveu du grand Lebrun, mais aussi grâce à la protection de Vernet et de Doyen, donc qui sont des amis de l'âge, qui ont l'âge de son propre père, et qui vont protéger ses débuts.
Alors peut-être que pour mieux comprendre justement sa formation, il faut commencer par le début de cette existence romanesque, l'enfance de Madame Vigée-Lebrun, une enfance qui finalement n'est pas très heureuse parce qu'elle a un père qu'elle idolâtre, qui est un pastelliste je crois, qui disparaît assez tôt. Et alors ce sur quoi elle insiste d'emblée dans ses souvenirs, c'est qu'elle a visiblement un talent très précoce, qui est repéré et par son père et par les amis de son père, dont Joseph Vernet. Cette enfance, elle est à la fois marquée donc d'emblée par la peinture, le dessin, un talent indéniable, et une enfance, un cercle privé, lui, pas très heureux.
Enfin, en ce qui concerne l'enfance d'Elisabeth Vigée, bon, il y a effectivement une sorte de ligne de faille qui est le décès de Louis Vigée, son père. Ça, c'est évident. Donc elle naît rue du Coq-Héron, dans un quartier de Paris extrêmement animé. Donc Louis Vigée est un pastelliste qu'on a redécouvert il y a assez peu de temps. Naël Géfarès, par exemple, dans son dictionnaire des pastellistes jusqu'à 1800, lui donne parfaitement sa place. Et donc, c'est un pastelliste de talent. C'est quelqu'un qui avait des revenus tout à fait confortables, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps, peut-être, ou qui n'a pas su constituer une aisance matérielle suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille après sa mort. Lorsqu'il meurt, par exemple, il va laisser une petite maison à Neuilly, qui est une maison qui va être...
Il en parle d'ailleurs.
Oui, hein. Qui est grevée de dettes et donc qui sera reprise par le Sèvres, le second mari de sa mère. Alors, donc, sa mère, Jeanne Messin, sur qui, finalement, on sait relativement peu de choses. On ne sait pas exactement, on pense qu'elle est originaire d'une des provinces du Luxembourg, mais jusqu'à présent, on n'a pas exactement la preuve du lieu de sa naissance. Et donc, elle la présente comme une très belle femme, grande, austère. Et d'ailleurs, un des premiers portraits, le portrait de sa mère au col de fourrure, est un des portraits qui a fait qu'on a remarqué le talent d'Elisabeth Vigée dans son adolescence. Alors, donc, elle va être confiée en nourrice à Épernon, comme cela se faisait. Donc, c'est quand même une famille qui vit déjà sur un mode bourgeois, d'artisan, voilà, tout à fait. Où, dit-elle, elle n'est pas malheureuse. Alors, il y a des notes manuscrites qui ne sont pas reproduites dans le texte où elle évoque des souvenirs de sa prime enfance chez cette nourrice d'Épernon. Et à peine est-elle terminée cette enfance chez sa nourrice qu'on la met l'âge de 6 ans dans un collège du Faubourg Saint-Antoine où elle a là de très mauvais souvenirs. Elle est, dit-elle, mal nourrie. Les religieuses ne la traitent pas bien. Et il y a un maître de dessin. Elle est souvent punie. Enfin. Et lorsqu'elle, à l'âge de faire sa première communion, elle sort de ce couvent pour enfin retrouver sa maison et son jeune frère qui, lui, est entre ses parents.
Alors, donc, un frère, justement, que la maman préfère, visiblement.
Voilà. Son jeune frère, Étienne, qui était un très joli enfant. D'ailleurs, on a un très beau portrait d'Étienne qu'elle a réalisé entre 14 et 15 ans. Étienne en habit d'écolier. Et donc, ce jeune Étienne, c'est un bel enfant, il est intelligent, il est gay. Elle, dit-elle, a grandi, elle a les yeux enfoncés, elle est trop maigre. Et donc, elle n'est pas, dit-elle, d'après une enfant agréable. Mais son père la préfère. Et elle se glisse dans l'atelier. Et son père la complimente sur ses premiers dessins. Donc, je crois que c'est là que les choses se jouent.
Il y a une phrase très forte, voilà. Je crois. Son père lui dit, tu feras quelque chose.
Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera. Voilà. Et donc, il est évident qu'elle va vivre le deuil de son père sur le mode de l'apprentissage et finalement de la reprise, de la continuation plutôt, du métier de son père. Je crois que c'est une façon de faire son deuil et puis de continuer à...
Et puis, on est dans des époques où il y a des espèces de dynasties qui se créent.
Complètement, s'il
n'y a pas de charge là, on est dans une famille qui est une famille d'artistes.
Tout à fait. Complètement.
On transmet ce qu'on peut transmettre, c'est-à-dire le savoir familial.
Oui, la plupart des femmes artistes sont filles de peintres
ou
épouses
de peintres. Voilà, avec une endogamie ensuite.
Absolument. Oui. Oui,
alors, on a le sentiment que Vernet, Joseph, oui. est un ami du père, quand le père disparaît... justement l'enfant à travailler davantage et pour s'accomplir. Peut-être.
Il lui achète, dit-elle, ses premières toiles et elle évoque justement ses premiers cachets, ses premiers gains comme les cachets les plus précieux qu'elle aura jamais eus. Donc cette espèce de confiance de Vernet et aussi l'amitié de Doyen. Il y a aussi Daven, un peintre qui lui apprend à poser les couleurs sur la palette. Donc, elle est quand même une enfant qui est protégée, adoptée par un cercle d'artistes.
Hein.
Voilà. Mais il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que lorsque Louis Vigée meurt de façon accidentelle, de façon terrible, de façon brutale. L'inventaire après décès montre qu'il n'a pas de fortune. Et donc, Jeanne Messin n'a pas d'autre solution que de se remarier. Elle se remarie quasiment
avec
la même
joaillier.
Année avec le joaillier Le Sèvres.
Et qui a un petit côté Thénardier. Hein.
Oui, alors il a un côté... Oui, c'est,
je schématise.
Il a un côté antipathique.
Les gains de la jeune fille sont accaparés.
C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'elle gagne sa vie. Hein, elle gagne sa vie. Elle va même parvenir à constituer une petite épargne de peinture qu'on va retrouver au moment de l'acte de mariage. Le Sèvres la contraint à lui céder ses gains. doyen tente de s'interposer, mais de crainte que Jeanne Messin, de crainte que sa mère subisse les conséquences, donc elle accepte. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, un épisode assez important, parce que finalement son rapport à l'argent,
on y reviendra,
voilà, commence par une sorte de dépossession. Donc ça c'est quelque chose qui devient chez elle presque obsessionnel.
Après la perte du père, c'est la perte de ses gains, de ce qu'elle ne doit qu'à son talent. Et alors, il y a presque une préfiguration de ce qu'elle va vivre ensuite avec son mari, lorsqu'elle se marie, justement, avec ce marchand d'art, ce marchand de tableaux, Lebrun.
Elle va épouser
Jean-Baptiste Lebrun.
Jean-Baptiste en 1776. Elle le rencontre tout simplement parce que le joaillier Le Sèvre a cédé sa boutique du Palais Royal, et donc la famille va se déplacer dans ce qu'on appelle l'actuelle rue du Sentier, si vous voulez, rue de Cléry. Et il se trouve que dans l'hôtel Lubert, elle rencontre Jean-Baptiste, qui est d'abord un bel homme, un homme très séduisant, intelligent, un grand connaisseur.
On n'a pas conscience qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une vocation de conseil à l'égal des galeristes parisiens. On essaie de donner des comparaisons pour que le public comprenne, mais ce Lebrun est un nom à Paris, et on a un peu l'impression, lorsque les princes allemands constituent des collections et qu'ils envoient des émissaires comme on le fait à l'époque, qu'on soit chez les Saxe, chez la dynastie d'Anhalt ou à Weimar, ou même chez Frédéric, on fréquente des gens comme Lebrun pour constituer ces grandes collections.
Absolument. D'ailleurs, il sera garde des peintures du comte d'Artois et du duc d'Orléans. C'est lui qui va faire connaître beaucoup de peintres du Nord, notamment Holbein, etc., des peintres Vermeer, des peintres peu connus. Et donc, il est d'ailleurs, il a des contrats avec des marchands de tableaux hollandais. Et donc, c'est quelqu'un qui a une grande finesse de goût et qui très probablement comprend très vite que les talents d'Elisabeth Vigée, et la conseille, lui prête des estampes, lui prête des tableaux, parmi les plus grands, et forme son goût. Ça, c'est quelque chose qu'elle lui reconnaît.
Oui, parce que le mariage ne sera pas vraiment heureux. D'abord, on y reviendra, il se terminera par une séparation puis un divorce. Même si des raisons politiques seront peut-être à l'origine de cette séparation, on le verra tout à l'heure. Donc il y a un enfant unique, Julie, qui naît de ce mariage. Mais si c'est un échec sur le plan amoureux, on a l'impression qu'intellectuellement, il y a une très grande complicité. Et vous le sous-entendez dans ce travail que vous avez fait avec vos notes. Elle doit à son mari la manière de conclure une affaire. Il lui apprend comment, en fait, entre guillemets, se vendre ou vendre son travail et avoir une idée de la valeur de son travail.
Alors, je ne sais pas si c'est lui qui lui apprend à avoir une idée de la valeur de son travail. Toujours est-il que, il la met au travail. Il lui constitue, par exemple, un groupe d'élèves, chose pour laquelle elle n'a pas de vocation particulière. C'est lui qui, probablement, négocie des contrats. Je ne sais pas exactement quel est son rôle dans la mise en relation avec la cour, notamment lorsqu'en 1778, elle va exécuter le premier portrait de Marie-Antoinette. Mais il est évident que Jean-Baptiste Lebrun a un réseau de relations considérable et qu'elle en profite. C'est lui d'ailleurs qui va l'amener en Hollande.
Alors, pour revenir sur cette dépossession, on disait que les parents avaient une petite tendance à confisquer les gains de la jeune fille. Une fois qu'elle devient Madame Vigée Lebrun, son mari accapare une partie de ses gains. Il n'est visiblement pas quelqu'un de très, très économe. Et vous disiez que, ou c'est tel qu'il l'écrit, en 1789, il a quand même dilapidé près d'1 million de livres de gains de son épouse.
Oui, c'est-à-dire que, alors vous avez raison de prendre son double nom en disant Madame Vigée Lebrun. C'est vrai que elle dit que le jour de ses noces, qu'elle était déjà très connue sous son nom de fille, et donc qu'elle hésite à devenir Madame Lebrun. Bon, dirais-je oui, dirais-je non, disait-elle. Donc il y a une hésitation de sa part, il y a aussi un désir de rester indépendante. Mais bon, le mariage est quand même la meilleure façon de se soustraire à la tutelle de son beau-père. Donc, alors, en ce qui concerne la confiscation de ses gains, sous l'Ancien Régime, la femme n'a pas le statut juridique qui lui permet...
C'est une mineure.
Oui. Elle est mineure, oui. Et c'est une affaire qui va durer quand même un certain nombre d'années. Oui. Ensuite... Et la seule chose qu'elle va parvenir à faire, c'est en 1789 de confisquer les gains du portrait du bailli de Cruzol, dit-elle, pour pouvoir partir. Mais le fait est que Lebrun dilapide les gains de sa femme, certainement aussi les siens propres. Alors, bon, d'une part, il est obligé d'avoir quand même beaucoup de tableaux chez lui, donc j'imagine...
Il y a peut-être une trésorerie qui est en permanence
en circulation. Sorte de, il y a un mouvement de trésorerie qui devait être très important, mais surtout, il est joueur, hein, il a des dettes de jeu, d'ailleurs son inventaire après décès montre qu'il a laissé des dettes de jeu, et surtout, il entretient des maîtresses, il a... dilapider de l'argent en louant des hôtels particuliers. Alors, sur ces choses-là, on n'a pas de détails. On ne sait pas exactement de qui il s'agissait. Aussi bien Justin Tripier-Lefranc, son neveu, qu'elle-même, reste extrêmement discret sur la vie privée de Lebrun.
Il est presque effacé, d'ailleurs, à la fin, il n'y a même pas un regard sur ce mari qui lui fait un retour à Paris. On y revient, c'est très émouvant, ce vieux couple qui se retrouve, qui a dû se séparer parce qu'elle était émigrée et il fallait couper tout lien avec la pestiférée aux yeux des nouvelles autorités. Et il va jusqu'à faire retapisser sa chambre à la manière dont elle était décorée à son départ en 89. C'est émouvant, ce vieux couple qui se retrouve et ce mari qui se retrouve finalement rayé quand même des mémoires de son épouse.
Ce qui est assez touchant, effectivement, c'est cet accueil, comme vous le disiez. Il fait tendre sa chambre de verre. Le vert, c'est sa couleur préférée. Garnir les escaliers de fleurs. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le carnet de Lebrun, il a noté le nombre d'années, de mois et de jours de leur séparation.
Il l'a vécu quand même comme une véritable séparation, un arrachement, alors, d'une certaine manière. Ou alors peut-être qu'il a fallu qu'elle soit absente pour qu'il comprenne qu'il était attaché à elle. C'est un processus aussi classique. On ne sait pas.
On ne sait pas bien, mais c'est-à-dire leurs relations ont été à une époque extrêmement conflictuelle. On a des lettres de Russie, notamment on a une lettre d'Elisabeth Vigée-Lebrun à Jean-Baptiste où elle lui fait des reproches extrêmement cinglants. Donc leurs relations n'ont pas toujours été...
Pas simples en tout cas.
Oui, simples, donc voilà.
Alors, on le disait, vous le soulignez vous-même tout à l'heure, elle hésite à prendre le nom de son mari parce qu'elle a déjà une réputation d'artiste. Et puis, en 1779, tout bascule avec le portrait de la reine Marie-Antoinette qui cherchait depuis des années son portraitiste et qui ne l'avait pas vraiment trouvé.
Oui, alors on peut dire que finalement, entre Marie-Antoinette et Elisabeth Vigée-Lebrun, c'est une rencontre très harmonieuse. D'abord, elles sont nées toutes les deux en 1755, elles ont exactement le même âge. Elisabeth Vigée avait déjà aperçu la reine lors d'une promenade, lorsqu'elle était jeune fille, lors d'une promenade à Sceaux. Voilà. Et elle avait été frappée par ce qui frappait la plupart des contemporains à l'époque, c'est-à-dire le port de tête de la reine.
Un port très altier, voilà. Puis la reine l'avait abordé.
Voilà, la reine l'avait abordé et lui avait donné l'autorisation de se promener. Donc ça, c'est quelque chose qui reste absolument dans son souvenir.
Et voilà. Ça n'est pas de la légende dorée. On est certain que là, elle n'est pas en train de reconstruire quelque chose ou...
Non, je pense que... Enfin,
c'est vraisemblable.
Ça me paraît vraisemblable, parce que je crois que les parcs royaux étaient ouverts aux promeneurs la plupart du temps, donc ça ne me paraît pas quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Madame Vigée était très belle, la mère d'Elisabeth Vigée-Lebrun était elle-même très belle. Donc,
la mère et la fille, on les suivait aux Tuileries, dit-on.
Donc, toujours très bien coiffée, dit-on.
Alors,
avec l'ambiguïté... De savoir si ça n'était pas sa profession, d'ailleurs.
Alors voilà, oui, ça c'est une énigme que je n'ai pas résolue. Savoir si effectivement la mère d'Elisabeth Vigée-Lebrun était coiffeuse, comme le dit Bachaumont, mais on n'a absolument aucune autre trace que cette petite note de Bachaumont. Enfin, donc on ne sait pas bien quelle était la profession de sa mère. Mais moi, ça me paraît un peu... J'en doute.
Oui. Alors, elle va réaliser, bien sûr, plusieurs portraits qu'on connaît, qu'on voit pour la plupart à Versailles, le fameux Marie-Antoinette à la Rose. Et cette proximité de l'artiste avec sa souveraine va porter ses fruits, là encore, sur le plan professionnel. Et ça va aller très loin, puisque en 1783, il y a une campagne qui est organisée par son ami Joseph Vernet, avec l'appui de la reine, pour que Madame Vigée-Lebrun entre à l'Académie royale de peinture. Or, une femme ne pouvait pas être élue à l'Académie royale de peinture. Il faudra d'ailleurs une intervention ferme de la reine.
Le problème se présente dans des termes légèrement différents. C'est-à-dire que l'Académie de peinture avait été fermée aux femmes pendant toute une époque, puis réouverte. Et donc, on avait la possibilité, les académiciens avaient la possibilité de choisir 4 femmes. Et la même année, en 1783, Adélaïde Labille-Guyard, sa rivale, va être élue. Mais ce qui faisait problème en ce qui concerne Élisabeth Vigée-Lebrun elle-même, c'était la profession de son mari. Parce que les femmes n'ayant pas de statut professionnel différent de celui de leur époux, donc elles se trouvaient, pour ainsi dire, collaboratrices du commerce d'art de Jean-Baptiste Lebrun.
Oui.
Or, Pierre, qui est le directeur de l'Académie, tenait absolument à ce que la sphère...
Il n'y a pas de confusion des genres.
Oui. Ah, voilà. Qu'il n'y ait pas de confusion des genres, absolument, à ce que la sphère du commerce et la sphère de la production artistique soient séparées. Donc c'est probablement ça qui posait problème à son admission. Donc la reine s'interpose à ce moment-là. Et elle est élue.
Les portraits royaux, c'est, s'imagine, source de commande énorme. Elle devient à la cour la portraitiste fashionable. Enfin, c'est celle à qui les grands commandent leurs portraits.
Tout à fait, oui. Ceci dit, si les portraits de cour sont une source de renommée importante, ils ne sont pas forcément la source la plus lucrative parce que plusieurs de ces portraits ne seront pas réglés à la Révolution. Lorsqu'elle rentre, elle est encore inscrite sur le grand livre de la dette. C'est plutôt par l'effet de mode que ça pouvait procurer, je crois.
D'ailleurs, c'est à nouveau ces problèmes d'argent vont la suivre parce que, elle le dit, enfin, les grands paient mal, l'État lui-même, enfin, paie encore plus lentement, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et quand elle sera ensuite dans son cheminement, son périple en Italie, en Autriche ou en Russie, les grands se précipitent pour lui demander son portrait, mais quand il faut présenter la facture, elle doit attendre, envoyer des lettres extrêmement diplomatiques. C'est une position assez précaire, finalement.
Il est vrai que vous avez sûrement raison, parce que lorsqu'elle est bien payée, surtout lorsqu'elle est payée avec élégance, elle le signale. Et ce qu'elle appelle être payée avec élégance, c'est finalement lorsque on lui remet son cachet dans une boîte de laque,
voilà,
lorsqu'on l'accompagne de bijoux. Et c'est la plupart du temps, c'est en Russie qu'elle sera le mieux traitée sur ce plan-là.
Alors en France, elle devient donc une académicienne. Elle est la portraitrice attitrée, enfin c'est officieux, mais enfin elle est la portraitrice préférée de la reine, ça n'est pas discutable. Cette réputation bien installée suscite des jalousies. À la veille de la Révolution française, elle est victime de libelles à caractère pornographique ou en tout cas qui vont assez loin. On lui prête une liaison avec le ministre Calonne et circule dans Paris une espèce de feuilleton assez défavorable.
Des fausses lettres d'amour, oui, adressées à Calonne. Elle, des inscriptions à la chaux, des inscriptions sur l'hôtel Lebrun, de la chaux versée dans sa cave. Donc l'année 1789 est une année qui va devenir effectivement, bon pour elle... extrêmement inquiétante.
Alors, il y a cette affaire Calonne, et puis il y a quelque chose que vous allez peut-être nous raconter en détail, c'est l'affaire du souper grec, parce qu'elle-même y revient en racontant l'événement et ensuite en indiquant clairement qu'il a eu des conséquences notables et que, rattachée à l'affaire Calonne, elle comprend très très tôt, dès l'été 89, qu'il faut qu'elle parte parce qu'elle sera, sinon sur la liste tôt ou tard, des victimes de la Révolution. Qu'est-ce que c'est que ce souper grec, alors ?
Alors, ce souper grec, c'est une sorte d'improvisation. Voilà ce qu'elle en dit. Hein, c'est-à-dire que son frère lui ayant lu un récit décrivant les aventures du jeune Anarche Archis, elle a l'idée, le soir même, de commander à sa cuisinière un souper à la grecque, et donc un gâteau au miel, une bouteille de vin de Chypre.
Toute une mise en scène,
voilà.
Magnifique.
Alors, voilà, une mise en scène...
qui est sans doute très simple,
très
d'ailleurs.
Simple,
c'est une
voilà,
artiste qui sait faire des choses
voilà,
avec
une,
peu.
Voilà, une mise en scène très simple, c'est-à-dire...
Parce qu'elle incite sur le côté que le souper n'a pas coûté cher et que tout a été improvisé, finalement.
Ah, le souper a été improvisé dans l'après-midi,
oui.
Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude le soir de recevoir dans son petit appartement ses voisins, des poètes, etc. Et donc l'idée était de se costumée avec éventuellement les vêtements qui servaient à ses modèles, c'est-à-dire ce qu'elle appelait des blouses, c'est-à-dire des robes blanches resserrées à la ceinture avec des châles de cachemire.
Oui, c'est la mode des voilages à l'époque.
Une couronne de laurier. Elle emprunte à un voisin collectionneur de vases antiques quelques plats et donc un décor est improvisé. Et le comte de Vaudreuil, dont on pense qu'il a pu être son amant à cette époque-là et qui était très proche de la famille Polignac, le comte de Vaudreuil arrive et l'effet de surprise est si fort qu'il raconte ensuite dans d'autres salons ce souper. On l'a pris de renouveler l'expérience, elle refuse et on lui en tient rigueur. Donc voilà, ce souper grec est un épisode dont il existe de multiples versions. C'est certainement, dans les souvenirs, un des épisodes qui a été le plus souvent réécrit. On le trouve d'abord sous la plume de Justin Trépied-Lefranc, on en trouve plusieurs versions, plusieurs états. Et lorsqu'elle arrive à Pétersbourg, une des premières choses dont on lui parle, c'est de ce souper grec. Donc ça a été une sorte d'événement fashionable, comme vous dites. Et d'ailleurs, elle emploie ce terme.
Elle le dit, j'étais à la mode.
Voilà, j'étais à la mode, j'avais la vogue.
Ah oui, elle était à la mode.
Voilà, j'avais la vogue. Il y a aussi chez elle un certain sens.
Sent bien le petit souper d'amis où on récite des vers, où on fait du bel esprit, on joue au bourrimé. Quelque chose de privé en petit comité, oui. On est entre gens de bonne compagnie et de bonne culture. Mmh. Et ce dîner, sans doute ceux qui n'y ont pas été conviés le raconteront encore mieux comme souvent. Et puis ça survient dans un moment de mécontentement général parce qu'elle a cette intuition. Elle montre bien qu'elle sent que le rapport au grand, ou donc on voit un attelage dans Paris, on sent une espèce d'hostilité. Elle, qui fait souvent le déplacement à Versailles ou qui fréquente les grands et qui habite Paris, on sent qu'il y a une espèce d'électricité dans l'air. Et le fait d'être à la mode, le fait d'avoir été victime de cette espèce de cabale avec ses libelles sur sa liaison supposée avec Calonne, ce souper grec, elle comprend très tôt, quand on ramène le roi, la reine, le petit Mitron de Versailles vers Paris, qu'il faut qu'elle parte en fait.
Mais c'est-à-dire qu'elle a déjà pris sa décision à ce moment-là, puisqu'elle va partir le soir même. Elle part en octobre 89.
Pour 12 ans. Elle va partir 12 ans.
Voilà, oui.
Sans savoir, évidemment, qu'elle partira si
Absolument.
Longtemps.
Absolument. Mais c'est-à-dire qu'elle part, en Italie. Elle avait déjà eu le projet d'aller en Italie. Et elle en avait parlé avec Ménageau, qui est un de ses amis, qui a été un de ses voisins et amis, et qui se trouvera être le directeur de l'Académie de Rome à ce moment-là. Et ce voyage en Italie, puisqu'elle n'a pas eu la formation qu'ont les peintres hommes, donc ce voyage en Italie lui paraît indispensable pour sa formation. Et donc, en 1789, finalement, elle va saisir l'occasion de l'émigration pour se faire oublier quelque temps à Rome, pense-t-elle. Un an, 18 mois.
Oui, c'est une espèce de grand tour qui commence. Elle part avec sa fille.
Alors, elle part avec Julie, sa fille, et la gouvernante, Madame Charot. Elle part
d'abord pour Turin.
Voilà, elle part par Turin. Il faut dire que le voyage a été remis une première fois puisqu'on lui déconseille de partir avec son propre carrosse. Donc elle part de façon anonyme par la diligence et donc elle va traverser les Alpes. Elle arrive à Turin où elle a déjà des contacts. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est de voir comment, finalement, dans chaque ville, elle a des contacts.
Dans chaque ville, il y a des gens qui la connaissent, soit des gens de son cercle d'artistes, soit des nobles qui sont ambassadeurs, qui la connaissent, qui sont passés par Paris, ou des Italiens quand c'est en Italie, etc. Et puis, il y a même gens qui la reconnaissent.
Oui.
Elle a vraiment une véritable notoriété dans une époque où il n'y a pas de médias. Elle est connue.
Oui, c'est très étonnant. Oui. Notamment, elle est reconnue, dit-elle, par le passeur qui l'aide à passer l'école. Et notamment, qui a vu des gravures de son autoportrait avec Julie. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de la diffusion de l'image par la gravure.
Les vignettes, la gravure,
oui, les vignettes,
qui
oui,
diffusent
voilà.
Ces grandes scènes.
Oui, et le salon de peinture tous les deux ans à Paris est un événement qui n'intéresse pas seulement les connaisseurs. Il y a aussi des gens plus simples qui vont au salon de peinture.
Donc c'est Turin, c'est Parme où sont les Bourbons également, c'est Florence, c'est Rome bien sûr, avec une anecdote sur des difficultés de logement incroyables. Il faut se loger en hâte dans des hôtels ou des palais qui semblent magnifiques mais qui sont infestés de rats ou qui sont abandonnés par le propriétaire parce qu'ils ne sont plus du tout en capacité d'être habités. Elle croise des gens, alors c'est, là aussi c'est très fashionable, elle croise le cardinal de Berny à Rome, oui. Et puis elle part pour le sud.
Qui la conseille très bien d'ailleurs.
Tout à fait. Oui. Elle part pour Naples qui, pardonnez-moi cette comparaison, mais qui est un peu le Saint-Tropez de l'époque. C'est le lieu fashionable par excellence avec les Hamiltons. Enfin, on peut se promener à Pompéi et à Naples. Alors, il y a une description extraordinaire. Là, elle écrit en peintre justement une très belle description de Naples, du Vésuve et de Capri.
Oui, absolument. Oui, il y a une description magnifique de cette baie, d'ailleurs, qu'elle pouvait contempler des fenêtres de l'hôtel qu'elle avait choisi.
On va peut-être en lire un passage. Voulez-vous le faire ou je m'y colle? Alors, nous voilà bien loin de Naples et de 1790, j'y reviens. J'étais dans l'enchantement d'habiter cet hôtel de Maroc, sans parler de l'agrément de mon voisinage. Je jouissais de ma fenêtre de la vue la plus magnifique et du spectacle le plus réjouissant. La mer et l'île Capré en face, à gauche le Vésuve, qui promettait une éruption par la quantité de fumée qu'il exhalait. À droite, le coteau de Posilippe, couvert de charmantes maisons et d'une superbe végétation. Puis ce quai de Chiaja, toujours si animé qu'il m'offrait sans cesse des tableaux amusants et variés. Là, on est vraiment dans l'artiste qui voit des scènes de bamboche ou des caprices. Si animé qu'il m'offrait sans cesse des tableaux amusants et variés, tantôt des lazzaroni venaient se désaltérer au jet d'eau qui sortait d'une belle fontaine placée devant mes fenêtres, où de jeunes blanchisseuses y lavaient leur linge. C'est le pays de Cocagne. Ce sont vraiment ces scènes de pittoresques.
Absolument.
Elle sait là séduire son interlocuteur ou son interlocutrice.
Oui, elle a une. Très probablement, elle a une mémoire visuelle très, très aiguë. Hein. Vous l'avez bien mise en valeur. Je crois que c'est quelqu'un qui transmet à son lecteur des images. Bon, elle a une mémoire des tableaux qu'elle a vus. Elle a une mémoire des paysages, presque des cadrages, des très, très précises.
Et alors, elle a quand même beaucoup de chance. C'est qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que c'est que voyager dans l'Europe de l'époque. Mm-hmm. Plus on va au sud de l'Italie, où ensuite elle partira pour... Elle remonte par Venise, elle passe en Autriche, elle va à Prague, puis elle se trouve à Dresde, puis Berlin.
Oui.
Et enfin, le long séjour à Pétersbourg, puisqu'elle reste, elle arrive quand Catherine de règne, elle reste 7 ans, elle part quand Alexandre Ier est devenu tsar. Et alors, ces voyages, elle est souvent cours d'argent, il faut se loger. Il y a toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un qu'elle rencontre, qui l'a connu ou qui connaît son travail. Et alors que d'autres renonceraient devant tant de difficultés, les choses se trouvent toujours d'une manière agréable de se résoudre.
Tout d'abord, il y a certainement le filtre du souvenir. Hein. Il est vrai qu'on a affaire à un récit qui est quand même un récit idéalisé par la distance temporelle.
Les récits d'émigrés sont nombreux, de gens plus importants qu'elle, d'une naissance plus illustre, pour lesquels la fin est sordide, enfin, très compliquée au quotidien.
Oui. Alors, il me semble que justement, son privilège, c'est son statut d'artiste.
Voilà.
Alors, elle bénéficie, comme vous le disiez très justement, de réseaux. Hein, et je pense qu'en réalité, elle a deux types de réseaux. Elle a le réseau des artistes, donc les artistes qui sont venus à Paris, avec qui elle a été en bonne relation et qui lui... Parce que c'est une personne aimable.
Ça, c'est ce qu'on a dit, charmante et aimable.
Oui, voilà. Donc ça, c'est le cas, par exemple, à Turin. Elle va être logée par le fameux graveur Porporati. Et alors donc, d'une part, il y a ce réseau d'artistes. Et puis d'autre part, les ambassades. Et là, elle bénéficie du réseau du comte d'Artois et de Vaudreuil, avec qui elle est très proche. Très souvent, on rencontre dans les souvenirs un personnage inconnu. Par exemple, elle rencontre à Florence la marquise Venturi. On se demande qui est ce personnage. Et si on cherche un peu, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a connu le comte d'Artois.
Dans l'entourage d'Artois.
D'Artois. Donc en fait, voilà, elle dispose de deux types de réseaux et elle les utilise. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Et donc, lorsqu'elle arrive quelque part, on s'inscrit sur la liste. Et elle exécute les portraits qu'on lui demande.
Oui, il faut vraiment insister là-dessus. Ce départ, ce séjour qui n'est pas une émigration puisqu'elle part à cause de la Révolution française, mais ça se transforme très vite en séjour laborieux au sens noble du terme. Elle arrive, elle s'inscrit et très vite on frappe à sa porte pour avoir un portrait. Et elle aura une production durant toutes ces années d'exil qui est très importante.
Oui, elle a une production très importante.
La Révolution l'a atteinte en pleine gloire, mais ne l'a pas touchée finalement. Et elle a poursuivi hors des limites du royaume de France une carrière qui est de toute façon prometteuse.
Oui, tout à fait. Bon, et même cet état de fait durera après la Révolution, puisque lorsqu'elle revient fin 1801, début 1802, elle reste quelque temps à Paris, puis elle repartira en Angleterre.
Oui, l'Empire la déçoit, donc elle part pour l'Angleterre. Des choses intéressantes, il y a cet épisode où elle voit Lord Hamilton qui est en train de négocier un tableau qu'elle a accompli pour lui. C'est-à-dire qu'elle comprend aussi que de son vivant, cet artiste a une notoriété telle, pour ne pas parler du talent qui est certain, qu'elle fait l'objet de spéculations. Et alors, ce sont des choses dont on parle fréquemment aujourd'hui dans le milieu du marché de l'art, mais déjà, elle est une artiste sur laquelle on spécule de son vivant.
Alors, bon, je ne sais pas si le cas de Lord Hamilton est un cas isolé ou s'il y a d'autres exemples, mais c'est vrai que Lord Hamilton avait cette réputation, ouais, d'acquérir des œuvres pour un certain prix et puis ensuite de les revendre. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de deux petites têtes d'expression qu'elle avait faites au fusain sur un mur du casin de Lord Hamilton à Naples, et qui n'avait jamais été vendue et qu'elle va retrouver en Angleterre. Donc elle a la preuve effectivement des négociations d'Hamilton. Oui.
Alors après ce séjour londonien qui dure 3 ans, elle revient à nouveau en France. Elle ne reste toujours pas, elle repart pour la Suisse jusqu'en 1808. Oui. Et elle ne reviendra finalement à Paris qu'avec le retour des Bourbons, premier retour des Bourbons.
Voilà. Mais je crois que dans tous ces voyages, il faudrait mentionner un épisode très important pour elle. C'est l'épisode du mariage de sa fille. Donc elle part, comme vous l'avez dit, elle part avec Julie et sa gouvernante, et elle forme une sorte de trio fusionnel.
Soudain, oui.
Elle donne à sa fille une éducation extrêmement raffinée. La petite apprend l'allemand, l'italien, toutes choses qu'elle-même ne connaissait pas. Elle lui enseigne le dessin, la musique. Elle la représente, jouant de la guitare.
Puis on sent un amour maternel hypertrophié.
Voilà,
pour cette fille.
Un amour maternel.
On lui a reproché d'ailleurs ensuite d'avoir été trop proche de sa fille quand ça va justement moins bien et que sa fille fait ce mariage malheureux.
Alors justement, la question du mariage de Julie, c'est la première fois que sa fille va lui échapper. Surtout qu'elle va épouser un homme sur lequel on ne sait pas grand-chose, en fait. On ne sait pas bien s'il s'appelle Gaetano Nigri. On ne sait pas bien quelle est son origine. Certains journaux russes disent qu'il est d'origine vénitienne. Quelquefois, on a pensé qu'il pouvait être français. Mais toujours est-il que ce Gaetano Nigri a comme principal défaut de n'être pas un peintre.
Et donc, elle rompt cette continuité de la famille d'artistes qui rêvent
de
s'en servir.
Voilà, et donc à partir de ce moment-là, Élisabeth Vigée-Lebrun va sombrer dans la mélancolie. Une mélancolie qui va durer quand même un certain nombre d'années et qui va lui faire prendre la décision de quitter la Russie, passer quelques mois à Moscou, de quitter la Russie et de revenir à Paris. Et à partir de ce moment-là, jamais, jamais plus, les relations avec sa fille ne retrouveront l'harmonie de l'enfance. Ça a été un des chagrins de la vie d'Élisabeth Vigée-Lebrun.
D'ailleurs, on le devine parce qu'en fait, même si sa fille meurt bien avant la mère, on devine au silence de la mère sur la vie d'adulte de sa fille qu'il y a sans doute eu un relâchement des relations. Et puis on voit intervenir les nièces dont Madame Vigée-Lebrun s'accompagne ensuite jusqu'à la fin de sa vie, qui prennent le relais.
Voilà, les nièces prennent le relais après la mort de Julie. Et notamment la nièce du côté de Jean-Baptiste, qui est peintre.
Et donc, qui a réussi là où la fille n'a pas réussi. Alors, il y a un passage qui est très beau, c'est le retour des Bourbons évoqué par Madame Vigée-Lebrun. Elle s'en réjouit et elle le raconte. Je cherchais ce passage qui est à la fin des souvenirs. Et on va peut-être citer ce passage. Donc, c'est Madame Vigée-Lebrun qui parle. Nous sommes à Paris, au retour, aux Tuileries. J'avais un extrême désir de revoir de près Louis XVIII. J'allais me mêler à la foule qui se pressait le dimanche dans la galerie pour le voir passer, quand il allait à la messe. J'étais placé avec tout le monde en face des fenêtres, en sorte que le roi pouvait nous distinguer parfaitement. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi, me donna la main de l'air le plus aimable et me dit mille choses flatteuses sur la joie qu'il avait de me retrouver. Comme il resta quelques instants ainsi, me tenant toujours la main, et qu'il ne s'approcha d'aucune autre femme, ceux qui nous regardaient me prirent sans doute pour une très grande dame, car dès que le roi fut passé, un jeune officier qui me voyait seul vint m'offrir son bras et ne voulut jamais me quitter qu'il ne m'eût accompagné jusqu'à ma voiture.
Ce passage que vous lisez est très intéressant parce qu'il fait ressortir deux choses, deux caractéristiques de l'écriture de Vigée Lebrun. C'est à la fois cette espèce de naïveté finalement et de plaisir à être reconnu, et aussi un certain sens, une certaine gaieté, une certaine plaisanterie, un certain sens de l'humour. Parce qu'il faut quand même dire que beaucoup de passages et souvenirs sont drôles.
Ah oui, tout à fait.
C'est quand même un récit où elle raconte...
Elle a beau dire qu'elle a l'esprit d'escalier, qu'elle n'est pas une femme spirituelle, parce qu'elle a sans doute devant elle des modèles qui sont des archétypes. Elle sait remarquer les choses. Elle est peintre, donc elle voit aussi l'anecdote, le cocasse, effectivement.
C'est ça.
Et elle sait faire bonne figure de ses voyages où justement elle tombe, elle a des problèmes de liquidité, il faut trouver un passeport, on peut rencontrer des brigands, les logements sont insalubres. Et elle n'aurait pas tenu si elle n'avait sans doute pas une capacité à distancier les choses.
Ce qui provoque l'admiration, c'est de voir son intrépidité. Faire le voyage à Pétersbourg, seul ou quasiment avec cette gouvernante et sa fille. Il faut quand même ajouter une chose importante, c'est que dans la deuxième partie de son voyage, elle sera accompagnée par Monsieur de Rivière, qui est le frère aîné de sa belle-sœur et qui est portraitiste, miniaturiste. Et ce Monsieur de Rivière, c'est un très bon peintre qui terminera sa carrière comme diplomate. Et donc, il apporte sa présence, sa gaieté, une certaine aide rassurante.
Puis il facilite sans doute bien des démarches.
Oui, très probablement, oui, voilà. Donc pendant toute cette partie de son voyage, elle est une sorte d'association avec lui, même s'il voyage toujours séparément dans des carrosses séparées. Quelquefois, leurs routes se disjoignent, mais il est là quand même.
Alors finalement, elle revient à Paris où elle passe le restant de sa vie tranquillement et confortablement. Elle est morte assez âgée, elle est morte à 87 ans.
Oui, hein. oui, tout à fait, oui. Dans une aisance, dans l'aisance qu'elle a toujours souhaité et qu'elle est parvenue à acquérir dans cette maison de Louveciennes, qu'elle aimait particulièrement parce que elle lui rappelait
Madame Du Barry.
La vue de la demeure de Madame Du Barry, et elle était tombée amoureuse de cette vue sur les coteaux de la Seine, et donc elle a acquis cette maison, qui est une sorte de havre finalement, où elle peut recevoir ses amis, tenir salon, passer l'été.
On sait où elle est enterrée ? On a conservé trace de sa
tombe ? Alors, elle
est
enterrée à Louveciennes. Elle avait demandé que sur sa tombe soit édifiée une colonne surmontée d'une palette avec ces mots « Ici enfin, je repose ». Alors, ce qui, pour une grande voyageuse, est une bonne devise.
Bien, Geneviève Arroche-Bouzinac, je vous remercie beaucoup. Nous avons fait partager et vivre ces souvenirs d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Je rappelle que vous avez réédité ces souvenirs, vous avez rétabli le texte complet et fait un appareil critique considérable qui permet de mieux comprendre les étapes de ce voyage de nombreuses années. Les souvenirs d'Elisabeth Vigée-Lebrun, 1755-1842, et c'est à Librairie Honoré Champion à Paris. Merci beaucoup.
Et bien, c'est moi qui vous remercie.